Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala ila yawmiddin, wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya kareem, rabbi zidna ilma ya kareem, rabbi zidna ilma ya kareem, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul 'aqdatan min lisani yafqahu qawli. Hier, nous avons évoqué le danger des péchés, le fait que le tort qu'on va faire à notre prochain peut être la cause d'annulation de quantité de nos bonnes actions et entre autres de nos jeûnes du mois de Ramadan. Et on avait insisté sur le hadith al-Muflis, cette situation de la personne qui le jour des comptes se présente avec énormément de bonnes actions mais également beaucoup de tort, beaucoup de mal qu'il avait fait aux gens à travers ses paroles, ses prises de décision, son comportement, ce qui fait que le jour de Qiyama, cette personne sera complètement démunie et dépouillé, on pourrait dire, de tous ces biens, et on parle de biens, les seuls biens qui persistent et qui auront l'importance dans l'au-delà, ce sont les a'mal salihin. C'est une situation catastrophique que le prophète alayhi salat wa salam avait tenu à présenter aux sahaba, à exposer aux sahaba comme étant le contre-exemple. Ne soyez surtout pas cette catégorie de personnes. Autant le prophète alayhi salat wa salam donne des exemples à suivre hein, entre les gens qui accéderont au paradis sans rendre compte, qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, bien sûr ce sont des éléments qu'Allah a inspirés à notre prophète alayhi salat wa salam. Ça c'était dans le bab tarhib pour motiver, inciter les sahaba et l'ensemble des croyants jusqu'au Qiyama à être au meilleur, donné le meilleur de leur iman, de leur foi et de leurs bonnes œuvres. Ce que nous voyons, ce sont d'autres péchés qui, malheureusement, font partie de notre quotidien. Les péchés en rapport avec les yeux, avec la langue, on va plutôt insister sur la langue. Les péchés en rapport avec les oreilles, avec les membres, de façon générale. Avant d'entrer dans les détails, de parler de hadiths précis concernant ces manquements et ces erreurs, je rappelle le cadre. Le cadre, pourquoi est-ce qu'on est en train de citer ça? Ce n'est pas un discours généraliste, même si c'est pas péjoratif comme terme quand on parle de religion, on est en train de parler de l'importance du jeûne de Ramadan que nous nous efforçons de faire avec des efforts, mashallah, remarquables qu'Allah accepte, avec ces familles qui se réveillent à 3h30, 4h du matin, avec ces mamans, ces papas aussi, hein, bien sûr, c'est pas que les mamans qui préparent le souhour, ce sont des schémas à casser. Des parents qui s'efforcent de réveiller leurs enfants, qui font des efforts, mashallah, remarquables et qui sont tous sur le tapis de prière en train d'invoquer Allah, de faire istighfar. Nous lisons le Coran, nous faisons, bref, je ne vais pas m'étaler, les a'mal que nous savons, alhamdulillah, que nous accomplissons, qu'Allah nous permet d'accomplir durant ce mois béni qui demande et qui consomme de l'énergie, qui demande beaucoup d'efforts physiques, beaucoup d'investissements, malgré le manque de sommeil, malgré la fatigue inhérente aux jeûnes, malgré parfois on a mal à la tête, on est épuisé durant ce mois béni, mais on s'efforce de lire le Coran, un juz, deux juz après la salat, alhamdulillah. Ce sont de grandes ouvertures qu'Allah nous accorde et il serait tellement dommage de mettre en péril ces bonnes œuvres. C'est pour ça que nous insistons sur le danger des péchés et le fait que le jeûneur doit bien sûr s'appliquer à jeûner correctement, mais dans justement l'onglet, on va dire dans la thématique de jeûner correctement, il y a une expression en arabe qui s'appelle tahsinu sawm. Et tahsin, on reconnaît peut-être la racine hasan, quelque chose qui est bien, c'est-à-dire que perfectionner le jeûne, tahsin al-sawm, c'est faire en sorte que le jeûne ne soit entaché par rien, qu'il n'y ait rien qui risque de mettre en péril ma journée de jeûne ou mes a'mal qui gravitent autour de ma journée de jeûne. Et justement, hier, on avait parlé du zulm, de l'oppression, des injustices, de la riba, de la bohtan, de la namima. Et l'auteur, le mu'allif, dans donc son ouvrage que nous utilisons comme support, il nous rappelle que tout ce qu'Allah nous accorde comme sens, ce que les scientifiques ont appelé les cinq sens, les yeux, l'ouïe, le fait de pouvoir, après il y a d'autres qui font pas partie de ces cinq sens, hein, le fait de pouvoir parler, le fait de raisonner, le fait de pouvoir se mouvoir, se déplacer, être autonome, marcher, machin, travailler, ainsi de suite, ce sont des bienfaits. Et pour nous, c'est normal d'être autonome, mobile et de voir, d'entendre subhanallah. C'est parce que nous avons toujours eu ces bienfaits. Maintenant, penchez-vous une seconde, un instant sur la personne qui a été privée de ses yeux. Et j'ai une grande pensée, je fais doua régulièrement pour cette personne, pour un proche, quelqu'un qui assiste à nos programmes de tafsir. Oui, du coup, je ne vais pas dire la localité, qui a eu un problème de santé assez grave au niveau de ses yeux. Il a perdu un œil complètement et il lui reste, il me semble, 10 poissons de l'autre œil. Il a besoin qu'on l'accompagne pour venir à la masjid. Ça me touche beaucoup, ça m'affecte énormément. Chaque fois que je vois la personne, je ressens une blessure, quelque chose qui me fait très mal. Et je me dis qu'Allah Akbar, cette personne vit une grande épreuve. Et malgré cette grande épreuve, je vois toujours cette personne au premier rang. Alors cela, en même temps, c'est une épreuve, mais en même temps, c'est un rappel et une preuve de la pureté de cette religion et la force du iman quand la foi est entrée dans le cœur. C'est quelque chose qui nous pousse à dépasser nos limites, à surpasser nos difficultés, mais nos problèmes de santé, de ce cas, nos problèmes de santé également, pour rechercher l'agrément d'Allah. Il y a des gens qui auront des grades extraordinaires, exceptionnels le jour de Qiyama. Donc voilà, je ferme la parenthèse, qu'Allah lui accorde la santé, apaise son cœur et lui accorde de grandes récompenses de l'au-delà. Et pareil, on connaît d'autres personnes qui ont eu des problèmes au niveau des yeux, d'autres personnes au niveau de l'audition, ainsi de suite. Donc quand une personne perd un bienfait ou une partie du bienfait, c'est là qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui était essentiel et primordial. Et parfois, voilà, on regrette l'époque où on était en bonne santé. Ne soyons pas la personne qui, Allah musta'an, perd un bienfait pour réaliser que c'était quelque chose d'exceptionnel. On n'a pas besoin d'aller de des extrêmes, Allah nous protège, à des extrêmes comme la cécité, la surdité ou Alzheimer, parfois, je donne un exemple qui nous permet de comprendre un peu là où on veut en venir. Il se peut que vous avez une entorse au niveau de la cheville, au niveau du genou, et que vous avez des escaliers chez vous pour aller à la salah, pour les travailler tout simplement, et que chaque fois que vous devez descendre les escaliers, vous avez besoin de béquilles, ou vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, ou vous pouvez pas conduire. J'ai un ami qui a une tendinite ou bref un problème au niveau de l'épaule, ne pouvait pas conduire, donc arrêt maladie avec les conséquences qui viennent avec. Je m'étale pas trop sur les exemples, on s'est bien compris. Il suffit des fois qu'on perd une partie de nos capacités, de notre capacité physique, pour qu'on se rende compte que c'était vraiment quelque chose d'essentiel, de primordial. Donc tout ça, ce sont des ni'mas. D'accord? Dans d'autres terminologies, d'autres lexiques, on va dire en médecine ou alors même de le langage courant, on va parler de la santé, du bien-être et de l'autonomie et ainsi de suite. Mais dans notre dîn, on parle de ni'ma. Chaque respiration, c'est un ni'ma. Vous avez certainement lu l'histoire de la personne qui est décédée, qui est atteinte de, je sais pas comment s'appelle cette maladie, la polio, il me semble, hein, et une maladie qui, alhamdoulilah, a été éradiquée complètement, qui a dû vivre dans une cage en acier pendant des années et des années. Imaginez, des situations qui sont terribles. Donc voilà, respirer cette ni'ma, digérer la digestion de cette ni'ma. Demandez à une personne qui est atteinte d'ulcère d'estomac ou de problèmes de côlon ou d'autres problèmes graves au niveau de la trachée, de l'œsophage, qui ont du mal à déglutir, ainsi de suite. Mais pour eux, voilà, ils vous regardent manger un repas, manger votre samoussa, votre tian, votre katlès, un steak frites salade, un kebab, ainsi de suite. Il se dit que j'aimerais tellement retrouver ma santé pour pouvoir manger, déglutir et digérer normalement. J'ai un ami, un proche qui a un problème au niveau d'intestin, situation qui a perduré pendant 1 an. Allez, je vais arrêter parce que si on commence à parler des épreuves de chacun, on serait une liste interminable. Et ce qu'on retient, c'est que quand on voit autour de nous les personnes qui sont malades, on compatit, hein, franchement, c'est quelque chose qui est en train de, Allah, de disparaître à notre époque. On est tellement égocentrique, on est tellement nombriliste, concentré sur soi-même, sa réussite, son bonheur, son confort, ainsi de suite, qu'on finit par perdre cette rahma qu'Allah a mis naturellement dans le cœur des gens. Donc, première chose, c'est qu'on soit touché et affecté par la personne qui est malade. Moi, depuis quelques jours, je vois une personne qui a les yeux rouges dans la masjid régulièrement et je sens qu'elle a des problèmes. Moi, ça m'affecte. J'ai envie d'aller poser la question, mais sans être intrusif. C'est-à-dire que le mu'min doit se soucier de la situation de son prochain, doit ressentir ce qu'il ressent et, dans la mesure du possible, essayer d'apporter son aide, ce qu'on appelle un peu l'altruisme, et ainsi de suite. Et si on n'arrive pas à apporter de l'aide physiquement et directement, au moins faire doua pour cette personne. Non. Voilà, je ferme la liste des exemples de personnes éprouvées. Et donc, la première chose, c'est donc ressentir de la peine, être attristé, d'accord, ne pas rester rigide, psychorigide, même comme on dit, que non, mais lui-ci, il n'est pas bien, c'est qu'il l'a cherché ou qu'il n'a pas pris des précautions, n'a rien de billah. C'est s'enquérir de son état, demander des nouvelles, faire doua, montrer qu'on est là, on est présent, témoigner de notre affection, de notre solidarité, venir en aide quand c'est possible. Mais c'est également, à la ibra, tirer des leçons. tirer des leçons et réaliser que c'est une grande épreuve et demander à Allah la protection. D'où l'enseignement quand le prophète alayhi salat wa salam nous dit que quand vous voyez quelqu'un qui est éprouvé, lisez ce doua, Allahumma Alhamdulillah, oui. Alhamdulillah, alladhi aafani bima ibtala bihi kathiran min an-nas wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Le doua est un peu long et je pense qu'on peut compter sur notre frère Bilal Chotien, Allah yahfadhu wa yaftah lahu abwab rahmatihi wa yuwaffiqhu wa yusaddid khutah, pour nous mettre à l'occasion ce doua à l'écrit sur une petite carte dont il a le secret de fabrication. C'est important de tirer des leçons des personnes qui sont dans des épreuves et demander à Allah protection. Et donc, comme on dit, l'expression « faire qadar », c'est bien, c'est une belle expression qu'on utilise ici depuis des générations. « Faire qadar », ça vient de l'arabe, du verset entre autres « wa ma qadarullah haqqa qadri ». « Faire qadar », c'est donner de l'importance. Donc, donner de l'importance sur ce que nous avons. Quand vous voyez quelqu'un éprouvé dans avec telle ou telle pathologie, vous vous réalisez que, mashallah, moi je mange correctement, je me déplace, je n'ai pas telle difficulté, et vous remerciez Allah, et vous retenez que ce ni'ma, je dois l'utiliser dans l'obéissance. Par exemple, si on voit quelqu'un qui est éprouvé par sa vue, toi, musulman ou musulmane, prends conscience que tu vois, mashallah, 100%. Ta vue, elle est présente à 100%, mais n'utilise pas ce bienfait dans le ma'asiyah, dans la désobéissance. Ce serait une grande ingratitude envers notre Seigneur que tu aies déjà vu quelqu'un éprouvé dans sa vue, par sa vue, et toi, tu as, mashallah, ce ni'ma, et tu l'utilises dans le mauvais chemin, regardant ce qu'Allah a rendu haram, et ainsi de suite. Pareil pour les oreilles, pareil pour tous les ni'ma. Du coup, avec tous les exemples que j'ai donnés, je pense qu'il n'y a pas nécessité de développer encore la thématique du fait d'apprécier les ni'ma, les bienfaits, et de prendre considération et faire en sorte qu'au quotidien, nous les utilisions dans le droit chemin, comme Allah nous l'a demandé. Et plus encore, en état de jeûne, être encore plus vigilant sur le contrôle du regard, encore plus vigilant sur ce que nous écoutons. On a eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises le danger des réseaux sociaux. Il y a des gens qui n'ont jamais l'habitude d'écouter la musique, d'accord ? Après, je sais que, Allah musta'an, à notre époque, avec Kalam, Mu'tazila, et ainsi de suite, il y a des gens qui divergent maintenant sur la musique, et ainsi de suite. Nous, on n'entre pas dans ces débats. On n'entre pas dans ces discussions, dans ces vaines discussions. On retient que, je garde mon exemple, il y a des gens qui, mashallah, ont toujours été protégés de ce fléau, parce que c'est un fléau, c'est quelque chose si on commence à écouter, ça devient addictif. Il y a une addiction qui fait que le cœur s'attache à cela, et quand le cœur s'attache à la musique, le cœur a du mal à trouver le plaisir d'écoute de Kalamullah, de la parole d'Allah. C'est pour ça que moi j'ai également des réserves concernant les anachides, quand des gens écoutent uniquement des anachides, il y a des anachides dans des situations particulières, pendant un voyage, je crois que ça m'a accepté que quelqu'un chante des anachides et tout, mais allez, je suis en train de sortir largement du sujet du psaume, je me recentre un peu sur ce qu'on disait, et voilà, écoutez, il y a des gens qui n'ont jamais écouté de haram, et avec les réseaux sociaux, les reels, si ça se dit comme ça, les vidéos TikTok, les vidéos Instagram, ainsi de suite, bah, ils regardent, des fois le cerveau est épuisé, c'est des choses qui arrivent, et on veut se détendre, et on veut être totalement inactif dans ce que nous voyons, que nous regardons, on veut vraiment se laisser aller et regarder, c'est le principe de regarder la télé d'ailleurs, et donc il y a une baisse de vigilance, on regarde une petite vidéo de 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, et il y a un fond sonore, et ce fond sonore c'est souvent de la musique. Et on se dit que oui, mais mon but c'était pas d'écouter, mais c'était juste regarder la vidéo parce que c'est amusant, ce sont des scènes hilarantes, et ainsi de suite, ça me détend. Mais le problème c'est que ton cerveau finit par s'imbiber de cette musique et tu t'habitues et ça devient une addiction et tu fais partie des gens qui écoutent régulièrement la roue hadith et ces choses-là qui portent atteinte à la spiritualité. Donc dans le mois de Ramadan, faisons attention à ce que nous écoutons. Faisons attention à ce que nous regardons et encore plus faisons attention à nos paroles et ce qu'on avait dit hier, la médisance, ainsi de suite. Et au-delà de la médisance, de la riba, des paroles inutiles. On était dans une assemblée avec des élèves. à la madrasa et on leur a donné la possibilité de poser des questions au professeur, et un élève pose une question pertinente. Malheureusement, il n'y avait pas assez de temps pour répondre, c'était la fin de l'heure, on va dire. Dit que, est-ce que quand je suis en état de jeûne, est-ce que je peux regarder la télé, ainsi de suite, sans aller dans les extrêmes. La réponse la plus soft, le juste milieu, c'est de dire qu'en état de jeûne, et principalement de mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, c'est une période sacrée où chaque instant, chaque minute compte. Et c'est la thématique qu'on verra demain, Inch'Allah. Hifzul waqti, protège et donne de l'importance au temps durant le mois béni. Donc, le temps est tellement précieux, fais en sorte que ce temps-là, tu le dispenses dans les bonnes choses. Même les infos, l'actualité, et ainsi de suite. La radio, je ne dis pas que c'est haram. Qui je suis pour dire que c'est haram. Comme j'ai dit, on ne va pas dans les extrêmes. On ne va pas dans les extrêmes. Mais on parle de la notion de temps. Optimise ton temps. Profite de ton temps, meuble ton temps par zikrullah, tilawatul Qur'an, kalimatul tayyiba, écouter une assemblée religieuse, écouter des rappels. En ce moment, il y a, mashallah, les collègues du ulama qui font beaucoup de rappels et c'est diffusé sur des plateformes, sur WhatsApp. Et en une journée, vous pouvez avoir 5 ou 6 rappels de savants de différents endroits de l'île, et puis de façon globale. Moi, je préfère qu'on écoute les ulama de notre localité. Les ulama de notre localité, parce qu'on voilà, on aura un discours qui se rejoint, qui est cohérent, parce que si on écoute des gens à droite à gauche, c'est, voilà, ça peut être un peu perturbant d'avoir différentes versions. Parenthèse fermée. Donc faisons extrêmement attention également à notre temps. Le temps, on l'utilise correctement et donc on fait en sorte que notre journée de jeûne ne soit pas entachée par des manquements en rapport avec ce que nous écoutons, ce que nous regardons ou des paroles que nous allons dire. On avait prévu plusieurs versets que l'auteur avait cités concernant les membres du corps qui auront à répondre le jour des comptes. Mais voilà, on veut vraiment rester de nos 20 minutes ou 25 minutes parce que, voilà, pas de rappel long durant le mois de Ramadan, mais beaucoup plus de amal, beaucoup plus de pratiques et de ibadah. Je choisis parmi ces versets un seul, on est dans la sourate Fussilat, dans lequel notre Rabb Azza wa Jalla nous révèle حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Une situation où le jour des comptes, les gens verront leurs propres oreilles, leurs propres yeux et la peau qui couvre leur corps, témoigner بما كانوا يعملون, témoigner de ce qu'ils faisaient de ce dunya. Et là, si on va vers c'est le même passage, et ils seront étonnés de voir leur propre corps prendre la parole. Ça fait partie des spécificités de l'au-delà. Il y a des choses qui nous dépassent concernant le monde de l'au-delà, qui est un monde qui a des règles qui sont différentes, qui ne sont plus les règles, les lois physiques de ce dunya. Ça, c'est une autre thématique un jour à aborder, les spécificités du akhirah concernant l'espace, le temps, mais également les lois physiques, et ainsi de suite. Et le jour des comptes, justement, les membres du corps prennent la parole. Il y a une voix, il y a un témoignage qui permettra au corps de témoigner au cas où si ces membres avaient été utilisés dans le marseur de le mauvais chemin. Et le verset stipule waqalu li juludihim lima shahidtum alayna, et les gens, ces personnes vont dire à leur propre corps, pourquoi est-ce que vous témoignez contre nous, de le sens où le fait de témoigner, d'avouer les péchés que je faisais, et là du coup ils se rendent compte que le corps témoigne contre lui, donc de ce que je vous faisais faire, si on va en enfer, ben, nous allons souffrir, c'est le corps physiquement qui va souffrir. Et là répondent, que c'est Allah qui nous donne l'ordre de parler, celui qui fait parler toute chose. Donc retenons que le jour des comptes, les membres du corps témoigneront contre la personne qui les aura utilisés dans le mauvais chemin. Et avant même de penser à ces scènes de l'au-delà, ayons le premier réflexe de shukr. Avant de parler de iqab, de conséquences, le jour de Qiyama, j'aimerais qu'on se focalise plus sur la notion de shukr, de reconnaissance. Allah t'a accordé ses bienfaits, sois reconnaissant envers ton Seigneur qui t'a accordé, mashallah, tous ses bienfaits, alors que d'autres en sont éprouvés. Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, avait posé une question au prophète, alayhi salatu wassalam, à propos de la gravité des paroles du prophète d'Allah, est-ce que c'est aussi grave, une parole déplacée, est-ce que ça peut être aussi grave? Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a répondu, « Amu'ad, hal yakubun nas finnari ala wujuhihim illa hasa'idu al sinatim sache au Mu'ad, on va dire traduction approximative du hadith, que beaucoup de gens seront précipités dans l'enfer face première, c'est-à-dire sur le visage, c'est-à-dire la situation la plus humiliante, ils seront jetés par leur visage face contre le sol de le feu de l'enfer, nas'alullah as-salamata wa al-afiyah, à cause de hasa'id al-sinatihim, les résultats de leurs paroles, de ce qu'ils avaient dit de ce dunya, en termes de mensonges, de médisances, de paroles déplacées, de paroles blessantes. Faisons très attention à ne pas blesser notre prochain dans nos propos. Des fois, on a une réunion, ça peut être une réunion de famille, une réunion entre collègues et tout, et on est fier de dire que je vais recadrer Foulane ou Foulane, je vais mettre les points sur les i et ainsi de suite. Et le rappeler à l'ordre, oui, dans le cadre du travail, ou même dans le cadre de relations familiales, dans le cadre d'une réunion d'entreprise, il est parfois nécessaire de rappeler à l'ordre quelqu'un qui ne fait pas son travail correctement, ou ainsi de suite, qui se laisse aller, mais il faut toujours le faire avec hikmah, avec sagesse, et faire en sorte de ne pas blesser notre prochain. Parce que ça a des conséquences directes sur nos a'mal et encore plus le jour de Qiyam. On rentrerait dans la catégorie donc du mouflis qui a porté atteinte à une personne par ses paroles. Naam. Le Prophète dit également celui qui est garant de, le Prophète a utilisé des métaphores qu'on a du mal à traduire en français, de ce qu'il y a entre ses joues. Donc, comme ce sont des exemples, des métaphores qu'on n'utilise pas en français, et je veux dire qu'il est peut-être plus intelligent de le traduire différemment. Donc le passage dit que celui qui garantit le contrôle de sa langue, et dans un hadith également, donc de ses parties cachées, qui fait en sorte de ne pas être de le zina, la personne a la garantie du jannah. Donc deux, on va dire deux péchés qui ont été mis en avant dans un même texte, pour qu'on réalise que la gravité de l'un peut être comparée à l'autre. On parle de l'adultère, c'est clair qu'on comprend qu'on parle d'un péché extrêmement grave, mais là on parle des dérives en termes de paroles, mensonges, ribat, ainsi de suite, que ça peut être également extrêmement, extrêmement grave. Naam. Et je vais terminer par un hadith en rapport avec la médisance, parce que la médisance c'est vraiment un mal omniprésent et qui se banalise, et qui, avant on a incriminé les femmes, hein, que c'était les femmes qui avaient plus tendance à faire le riba, mais je pense que c'est une vision un petit peu étroite de la situation. Malheureusement, les hommes le font autant, et là où ça devient plus grave, ça se banalise, c'est que maintenant la calomnie, la médisance, ce n'est plus uniquement dans les cercles de discussion. Je veux dire que dans les cercles où on se réunit et on parle donc oralement, tous ces péchés-là se passent également, transitent également par l'écrit, par les réseaux sociaux. Il y a des groupes WhatsApp où on fait ribat, on parle de quelqu'un, on cite ses péchés, ses défauts, ses erreurs, ainsi de suite. Les réseaux sociaux, ainsi de suite, c'est d'une gravité qu'on n'imagine pas, et que malheureusement, vous savez, ces réseaux sociaux, ils sont porteurs de beaucoup de mal, beaucoup plus de méfaits que de bonnes choses. Donc, si on a besoin de ces réseaux sociaux, faisons en sorte de bien cadrer